pour notre émission Ensemble. Nous accueillons aujourd'hui une vieille connaissance, c'est Philippe Schulz, au micro Henri Méchel et à la régie Jean-Claude Galerne. Philippe Schulz est dunois depuis de nombreuses années, il a fait toute sa carrière médicale et il était pédiatre comme beaucoup de dunois connaissent. Et il a vu pendant une cinquantaine d'années grandir tous les enfants dont il s'occupait.
Oui, bonjour Henri, bonjour à tous les auditeurs. Tu me disais, j'étais pédiatre. Or, je suis toujours pédiatre, on y est toujours. Et je continue encore l'exercice malgré mes 77 ans. Et voilà.
Alors, parle-nous du début. Donc, tu as un nom alsacien. Tu as donc des origines alsaciennes, du moins du côté de ton père. Et puis, en fait, tu es né sur Paris, à Neuilly.
Oui, voilà. J'ai des origines alsaciennes, pur sucre, pur fruit, tant du côté maternel que du côté paternel. Évidemment, paternel du Haut-Rhin et du Bas-Rhin côté maternel. Bon. Je suis un fils d'émigré, un petit-fils d'émigré, puisque c'est au moment des événements de l'Alsace annexée à l'Allemagne
1870.
Que mes grands-parents et arrière-grands-parents ont quitté l'Alsace. Voilà, c'est pour ça que je suis né à Paris, mais je reste alsacien de cœur.
Eh ben, moi aussi j'ai un nom d'Alsace et c'est la même chose. En 1870, L'arrière-grand-père est parti d'abord dans les Ardennes et puis ensuite il y a du sang mélangé. Bon,
oui. Moi je suis le premier de la lignée à mélanger le sang.
Bien. Alors enfin, donc tu as fait tes études sur Paris.
Tout à fait.
Et alors la vocation médicale là,
Alors, la vocation, est-ce une vocation? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que veut dire le mot vocation, en fait. C'est une maturation plus qu'une vocation. Je me souviens avoir fait une rédaction à l'âge de 8-10 ans, à peu près, 10 ans, que je voulais être médecin. Et j'étais, dès le début, je voulais être médecin. J'étais en admiration devant le pédiatre qui s'occupait de moi à Paris, qui était le docteur Gerbeau, qui est devenu professeur Gerbeau après. Voilà. Et je pense qu'il est à la source de ma vocation.
Mais c'est vrai que ce que tu dis, ça rebondit pour moi, hein, qui était médecin.
Toi aussi.
Et alors, moi, j'ai été touché dans mon enfance du médecin généraliste qui venait de temps en temps nous soigner. Et vraiment, il n'avait pas d'heure, parce que je me souviens, donc le soir, il passait après le dîner. Et puis, donc, on lui tendait un mouchoir propre pour ausculter les poumons. Et il lui arrivait de s'endormir en écoutant la respiration de l'enfant.
Ça m'est arrivé tout à fait, ça, lors de vacances en Touraine, avec un vieux médecin qui, effectivement, s'est endormi sur moi aussi. Mais, alors, initialement, en fait, je voulais être médecin généraliste. Ça a été en milieu rural. Et le hasard a fait des choses que je me suis tourné vers la pédiatrie. Je pense que ma vie était toujours des hasards. Alors, on met ce qu'on veut derrière le mot hasard. Hein. Mais ça a été des rencontres, des choses comme ça qui ont modifié un peu le courant de ma vie.
Oui, mais je suis comme toi. Moi, pour moi, le hasard, c'est un mot que j'ai rayé de mon vocabulaire.
C'est... Oui, je ne le raye pas, mais il veut dire ce qu'il veut dire. Voilà. Pour nous chrétiens, peut-être qu'il veut dire la présence divine, quelque chose. Pour les non-chrétiens, c'est un mot quand même utilisable. Comme ça, le mot hasard, je crois que c'est un mot qu'il faut garder quand même.
Justement, bon, comme tu dis, les gens, les personnes qui ne partagent pas notre cheminement spirituel, je leur dis, mais écoutez, vous voyez, non, c'est que Il faut voir que le ciel existe. C'est la démonstration. C'est que vous appelez le hasard. Non. C'est quelque part là-haut, la providence divine qui est là. Et comme ça, je les invite à cheminer dans cette direction.
Oui, non, mais ça, je suis fait d'accord avec toi. Mais je ne veux pas imposer, si tu veux. Voilà.
Oui,
donc,
bien.
Je laisse choisir ce qu'ils veulent mettre derrière.
Bah, écoute, comme notre Créateur, ouais. Il ne nous a jamais rien imposé.
Hein. Exactement.
Quand il parle... Quand on parle des 10 commandements, on pourrait dire qu'il s'agit plutôt des 10 recommandations que Moïse a reçues au Sinaï.
Tout à fait.
Et alors, donc, on en arrive après tes études. La pédiatrie, donc finalement, c'est. Tu disais que.
J'ai été externe des hôpitaux. Et ça a été au hasard des stages où j'ai découvert la pédiatrie.
Oui.
Voilà. Ça a commencé à l'hôpital Bretonneau et ça a continué sur l'hôpital des enfants malades à Paris.
Et là, tu t'es senti...
J'ai pratiquement fait tout mon externat en pédiatrie.
Ah oui.
À part quelques stages en dermatologie que j'avais fait parce que je trouvais que c'était important. Je n'y connais rien.
Oui. Voilà. Donc, en fait, d'emblée, tu t'es dit, tu as vu tous les organes à travers la pédiatrie, puisque
tout à fait.
Dans les hôpitaux de nos grandes villes, il y a des services de pédiatrie générale, c'est rare, c'est plutôt des services spécialisés en fonction de l'organe, l'appareil digestif, l'endocrinologie, l'appareil respiratoire, voilà. La neurologie,
la
enfin tout.
La neuropédiatrie.
Oui.
Voilà. Non, mais ça, la pédiatrie, pour moi, au départ, était vraiment une médecine générale orientée vers l'enfant. Et j'ai vu l'évolution se faire vers les spécialités pédiatriques. Au début, ce n'était pas. Et effectivement, donc la neuropédiatrie à laquelle je suis très attaché en ce moment avec mon engagement auprès des polyhandicapés, la cardiopédiatrie, etc., comme tu annonçais tout à l'heure.
Oui. Et d'ailleurs, un des grands professeurs d'hématologie, le professeur Jean Bernard, était d'abord un pédiatre généraliste avant...
Tout à fait.
Avant d'approfondir la question, du côté des maladies du sang.
Tout à fait. Mais tous ont été comme ça. Hein. C'est Mozzi Conazzi qui était un élève de Robert Debré, qui s'est spécialisé ensuite vers la rhumatologie pédiatrique. Mais avant, c'était un généraliste, tout à fait.
Notre entretien avec Philippe Schuss, toujours pédiatre à Châteaudun. Alors Philippe, tu termines tes études à Paris, ton diplôme, tu prêtes le serment d'Hippocrate.
Oui.
Et tout de suite, alors, tu arrives à Châteaudun.
Oui. Alors, non. Avant, j'ai fait d'autres choses. Avant, j'ai travaillé dans des centres de PMI, protection maternelle et infantile, les consultations de nourrissons. J'ai fait de la médecine scolaire sur Paris aussi. La fin de mes études, ça, tout à fait. Et puis ensuite, je suis parti faire mon service militaire, puisqu'à l'époque, on faisait encore son service militaire, au sein de la coopération et détaché aux missions protestantes en Afrique.
Oui. Et dans quel pays d'Afrique tu es allé ?
Au Cameroun.
Au Cameroun, oui. Voilà. Au nord, au sud ?
Au milieu.
Au milieu.
Dans le pays Bamileke, exactement.
Tu as passé
une région très agréable.
Tu as passé une année là-bas, alors ?
Ça a été tout à fait... Comment ?
Tu as passé une année là-bas ?
J'ai passé 2 ans et demi là-bas.
Ah oui.
J'ai prolongé mon séjour. J'y serais peut-être encore si je n'avais pas fait une hépatite... simplement, qui a nécessité que je sois rapatrié en France pour finir le traitement. Et là, j'ai réfléchi que finalement, notre place n'était pas en Afrique. On y est pour un temps donné, on apporte ce qu'on peut apporter, on reçoit aussi beaucoup, mais finalement, notre place n'est pas là-bas, je crois pas.
Tu étais déjà jeune marié à l'époque ?
Alors, j'étais pas encore jeune marié, j'avais des vues. Je me suis marié après, voilà.
Ah oui, déjà, tu avais un bon cheminement avant de... d'arriver donc à Châteaudun.
Tout à fait.
Et tu disais médecine scolaire.
Et là-bas, j'avais la responsabilité d'un service de pédiatrie, ce qui était quand même assez intéressant.
Oui.
Voilà le parcours initial. Et ensuite, je suis arrivé à Châteaudun. Après, j'ai été interne dans un établissement de la Croix-Rouge, Margency, qui accueille des enfants... sortant d'hôpital, mais qui ont encore trop de soins pour rentrer directement chez eux. C'était le début des gastrostomies chez les enfants, c'est-à-dire la nourriture par voie, par sonde.
Par la sonde directement.
Directement dans l'estomac.
Une sonde qui pénétrait dans l'estomac.
C'était les premières pompes, qui étaient des grosses machines. Maintenant, on arrive à des miniatures plus agréables. Bon, enfin, il y a eu là toute une évolution qui s'est faite aussi.
Margency, c'est dans la région parisienne, c'est ça ?
C'était en région parisienne. Margency, c'est dans le Val d'Oise.
Alors, qu'est-ce qui t'a attiré à Châteaudun ?
Le hasard, pour revenir à ça. C'est-à-dire que mon internat se terminait. Je n'avais pas de point de chute particulier. Je cherchais plutôt quelque chose dans la région parisienne, puisque mes parents étaient à Paris, ma belle famille est aussi sur Paris. Et mon maître, Monsignor, me dit « mais il faut aller à Châteaudun ». Pourquoi pas ? Je connais pas. J'ai traversé une fois Châteaudun en voiture, c'est tout, par le boulevard Grindel. Le reste, je connaissais pas Châteaudun.
Et pourquoi t'a-t-il dit d'aller à
Parce
Châteaudun ?
Parce que c'est Komarov, l'anesthésiste local, qui recrutait un pédiatre sur Châteaudun. Voilà.
Donc ils étaient tous les deux en relation.
C'est des Corses.
Ah oui. Ouais, c'est des Corses de...
D'origine, du moins.
Venant des...
Voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Châteaudun.
D'accord. Bon. Donc, en quelle année tu es arrivé ?
En 1974.
Ah,
exactement.
Oui.
Le 13 novembre 1974, j'ouvrais le cabinet.
Donc, alors, les noces d'or avec Châteaudun, c'est dans 3 ans, dans 2 ans.
Exactement. En même temps que mes noces d'or de mariage.
Ah oui. Donc, alors...
Voilà.
Tu arrives à Châteaudun en 1974.
Alors, je n'avais pas encore tout à fait ma spécialité. Je n'avais pas terminé encore, je n'avais pas passé l'examen final. Donc, la première année, je me suis installé en tant que généraliste.
Oui.
Où j'ai fait plus de pédiatrie que de médecine générale. Et au mois de l'année suivante, au mois de novembre, j'avais mon diplôme de pédiatre. Donc là, je suis... Exercé en tant que spécialiste.
D'accord. Ouais. Et tu as toujours habité là où tu avais ton cabinet de
ville.
J'ai
toujours habité
rue de Chaune.
Même endroit, voilà.
Oui. Donc là, tu t'installes et tu as tout de suite un pied à l'hôpital aussi. Et un pied en ville, un pied à l'hôpital.
Alors, j'ai un pied à l'hôpital très lentement. Très lentement, parce que ce n'était pas encore la mode. Enfin, la mode. On ne sentait pas l'utilité d'avoir un pédiatre en permanence dans les maternités. C'était vraiment dans les cas lourds qu'on faisait appel à lui. Puis progressivement, Je suis devenu attaché à raison de 4 vacations par semaine. Et puis finalement, un poste d'attaché complet à l'hôpital. Enfin, mi-temps.
Oui, oui, oui. Oui, ça a été, c'est ça, il y a eu toute une époque, toute une évolution où il y avait moins d'internes. Les internes venaient de la région centre, donc de Tours, les jeunes internes. Et quand on a à une époque réduit donc, le nombre d'internes, il y avait moins d'internes dans les petits hôpitaux. Exactement. Et donc on a, en contrepartie, augmenté
les postes d'attachés.
C'est ça, le nombre de médecins, praticiens de hospitaliers.
Oui.
Voilà, c'est toute une époque, 1980 par...
Tout à fait.
Voilà. Et
donc j'ai exercé à temps partiel comme ça, temps partiel à l'hôpital, temps partiel au cabinet, en plus des consultations de PMI. Au début, je faisais un peu de médecine scolaire aussi. Ça s'est rapidement tombé parce que j'avais plus le temps de tout faire. Et ça jusqu'à l'âge de 60 ans. Et ensuite, j'ai passé mon PH à 60 ans.
Oui. Ah oui.
Pour devenir praticien hospitalier, que je n'ai jamais utilisé parce que financièrement, ce n'était pas intéressant. Il vaut mieux que je reste contractuel.
D'accord,
parce
d'accord.
Parce que je ne prenais pas mon ancienneté.
Voilà. Effectivement, oui, tout ça, oui, oui. C'est...
J'ai quitté l'hôpital... j'ai 68 ans. Oui, à 68, 69, en même temps que toi.
Oui, mais oui, puisque
on a fêté le, en même temps.
Voilà, le pot d'adieu organisé par le directeur, il y a 4 ans, il y aura bientôt 5 ans.
Oui, oui, oui.
Et voilà. Alors, tu as donc ton expérience donc est très pleine. Et qu'est-ce que tu en déduis avec du recul?
J'en déduis que j'ai beaucoup de chance d'avoir fait toutes ces expériences. J'ai vu toute une évolution médicale aussi, dans la technique. J'ai vu également, et ça je le regrette profondément, s'éloigner une sorte de philosophie médicale. C'est-à-dire que maintenant, on ne tient plus compte que de protocoles. Face à une maladie, il faut faire ça, 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 ça. Mais on ne compte... Le patient passe derrière. Voilà un petit peu ce que je ressens à l'heure actuelle.
Oui. C'est sûr que il y a le... C'est important, le protocole, c'est un guide, mais il faut savoir même en fonction de... Les cas sont particuliers. Hein. Et il y a des cas qui vont mal entrer dans un protocole.
Tout à fait. Tout à
et
fait.
Dans ma spécialité aussi,
ils peuvent rentrer dedans, oui. Mais il faut savoir en sortir un peu, etc. Oui. La médecine globale, je dirais, semble disparaître.
Oui.
Il y a un organe, on s'occupe de l'organe, voilà, mais pas du reste.
Alors qu'en fait, l'unité primitive, l'unité primaire, d'ailleurs... Tous les médecins l'ont en enseignement à la faculté.
À
on est d'abord généraliste avant de choisir une spécialité.
Tout à fait.
Prenons notre entretien avec notre cher ami et confrère Philippe Schulz. Donc, toujours en activité, c'est la jeunesse se poursuit et ne meurt jamais. Alors Philippe, donc tu as parlé en particulier des enfants qui ont un handicap neurologique et que tu suis encore.
Alors un handicap effectivement profond, puisque ce sont des polyhandicapés, c'est-à-dire des enfants atteints dans leur développement de façon profonde, avec une absence totale d'autonomie, pratiquement, mais qui ont quand même tous des possibilités. Voilà, oui, j'ai fait. Alors donc je suis engagé effectivement auprès des Papillons Blancs d'Eure-et-Loire, l'association des Papillons Blancs qui est bien connue, puisque Madame Sauve de Châteaudun, qui avait fondé avec...
Oui, et son époux était notaire autrefois,
voilà.
Et là, s'il nous a quittés, il était jeune encore.
Voilà.
Oui.
Initialement, c'était des enfants essentiellement trisomiques dont il s'occupait l'association, puis finalement, ça s'est élargi à beaucoup de choses. C'était tous les déficits mentaux.
D'origine congénitale, donc.
Congénitale, pour certains. Tous congénitales.
Oui.
Pratiquement,
oui.
Ceux qu'on a actuellement sont tous d'origine congénitale.
Mais les accidents de l'accouchement, c'est exceptionnel.
C'est exceptionnel, en
oui,
fait.
Oui,
c'est
oui,
exceptionnel.
Oui, oui.
Il y en a, c'est sûr. Mais vraiment, c'était très rare. Et c'est tous des maladies avant la naissance, voilà, c'est vraiment des maladies génétiques.
Et ces enfants donc sont pensionnaires dans une institution.
Alors là, ils sont dans une institution qui est un internat, c'est 2 semaines, c'est-à-dire qu'ils rentrent le week-end chez eux.
Chez leurs parents.
Chez leurs parents. Mais si les parents sont trop fatigués pour les accueillir, s'ils ne peuvent pas les accueillir, ils sont quand même accueillis le week-end également. Donc c'est un internat ouvert en permanence.
Oui.
Il n'y a qu'un week-end par mois où c'est complètement fermé et 15 jours de vacances complètement fermés aussi l'été.
Oui.
Et puis il y a une partie externa, où les enfants viennent le matin à partir de 9h jusqu'à 16h30, comme un rythme scolaire.
Oui, ceux-là vivent chez leurs parents en permanence.
Chez leurs parents en permanence,
oui,
voilà.
Oui.
Et il y a, ce qui est, ça je crois que c'est très important, un accueil temporaire. C'est-à-dire que quand c'est trop lourd pour des parents d'accueillir un enfant, il faut savoir que les parents ont le droit de dire « j'en ai marre, j'en ai assez, je suis fatigué ». Ils peuvent... sur quelques jours, une semaine, ils ont le droit jusqu'à 90 jours par mois, de mettre l'enfant.
Un trimestre par an.
Alors, il y a un autre établissement qui est sur Chartres, à Poivilliers exactement, qui est purement un externat aussi. Voilà.
Oui.
Pour les handicapés de Eure-et-Loire, en fond.
Et sur Châteaudun même, il y a donc le site de la rue du Coq.
Alors, la site de rue du Coq, ah oui, là où j'ai été actif aussi,
oui, oui.
Rue du Coq, la NIME, c'est les déficits mentaux moyens à légers.
Voilà. Cela, c'est plus. C'est ça. C'est...
Voilà.
Hein. Et sinon,
ce n'est pas des déficits profonds.
Oui.
Ils sont éducables plus facilement. Et l'heure actuelle, du reste, l'IME de la rue du Coq se transforme en DAM. C'est-à-dire qu'ils sont scolarisés, ils sont tous à l'école normale, et c'est les éducateurs qui vont dans les écoles.
Ah, d'accord. Et donc,
pour la plupart, bon, certains.
Oui, oui. Mais quand même, les enfants retournent quand même dans ce site de la rue du Coq une fois par semaine au moins, non?
De temps en temps, mais pas forcément.
Donc c'est un endroit qui s'est vidé alors de...
Qui se vide. Alors je ne peux pas te dire exactement,
oui,
parce que j'ai quitté au moment de la transformation, justement, en plan d'âme, la rue du Coq. Voilà.
Oui. Et sinon...
Mais c'est ça l'objet, c'est de mettre le handicap dans la vie normale de tous les jours.
Et sinon, le site des Papillons Blancs se trouve...
Alors, le site de l'association se trouve à Chartres.
Oui.
Et c'est maintenant l'ADAPI, c'est-à-dire que ça s'est regroupé au sein de plusieurs associations, l'UNAPI au niveau national et l'ADAPI au niveau départemental. Du fait que si une association a beaucoup de membres, au niveau gouvernement, elle est plus reconnue qu'une petite association.
Il y avait un site sur la route de Brou, sur la gauche, en haut.
Ça, c'est Bordas, l'association Bordas, qui accueille des enfants plutôt en placement judiciaire ou placement par la PMI, voilà.
Oui, des cas
c'est
sociaux.
Ce n'est pas des déficits, normalement, voilà. C'est plus des cas sociaux, voilà.
Tout à fait. D'accord. Ça, c'est Bordas, oui.
Et puis, donc... puis, il y a aussi... l'association m'échappe, où ils sont regroupés en famille.
Oui.
Et... Saint-Jean.
Ah oui, des villages d'enfants.
Villages d'enfants, voilà.
Oui, excuse-moi. Oui, oui. Oui. Et sur... dans les nouveaux quartiers de Châteaudun, quel est le site actuellement qui, pour les papillons blancs, ça se trouve où exactement, là où on accueille les enfants en internat, là?
En internat, c'est à Bonneval.
Ah, c'est à Bonneval.
C'est à Bonneval, c'est à Bonneval. Il y a un établissement là qui a été créé, qui appartient au papillon blanc. On a racheté une partie d'un terrain de l'hôpital de Bonneval. Psychiatrique. Mais ça ne fait pas du tout partie de l'hôpital psychiatrique.
Et combien d'enfants sont là, sont suivis ?
Alors, il y en a 25.
Oui.
Oui.
Mais donc, et...
À une unité près. Hein.
Oui. Et cette nouvelle construction, enfin, il y a un certain nombre d'années sur Châteaudun dans les nouveaux quartiers.
Il y a plus d'une vingtaine d'années.
C'est ça. Donc, du nom de Madame Sauve, hein. Là, c'est un établissement qui reçoit aussi des enfants ou simplement à l'administratif. Il est derrière le boulevard Schweitzer.
Alors ça reçoit des adultes. C'est un foyer d'hébergement pour adultes.
Oui.
Handicapés, bien sûr.
Ce sont les enfants qui sont passés...
Voilà, il y avait besoin et voilà.
Oui.
Et nous, je dois dire qu'on a beaucoup de difficultés. Est-ce que les enfants trouvent une structure adulte, les enfants polyhandicapés? Parce que là, c'est ce qu'on appelle des MAS, maisons d'accueil spécialisées. Il y en a très peu en Eure-et-Loire. Il y aurait des besoins importants. C'est ce qui fait qu'on a des enfants maintenant qui ont 25 ans. Bientôt, ils n'auront plus besoin de pédiatres, mais de gériatres.
Et une dernière... Il y avait du moins... À une époque, quand on arrive dans les nouveaux quartiers, boulevard Kellermann, quand on le descend sur la droite,
c'était un bâtiment, effectivement, des pavillons blancs. C'était le premier bâtiment. Et c'était des enfants, et ça s'est transformé aussi en foyer d'accueil adulte.
Donc il y a deux foyers adultes à Châteaudun.
Voilà, tout à fait.
D'accord.
Tout à fait.
Pour un nombre de places, en gros, de combien
là,
ou...
Je ne peux pas te dire. Là.
D'accord, bon. Non, l'essentiel, c'est que ça existe. Non, mais l'essentiel, c'est que ça existe et... Voilà, oui. Écoute, on te remercie beaucoup pour ce panorama très simple. On l'a fait très spontanément, on l'avait pas trop préparé. Et parce qu'on comptait aussi en la Providence, mon cher Philippe. La Providence et Radio Grand Ciel, le Saint-Esprit, comme on disait en début de l'émission. Écoute, encore bravo. C'est comme on dit, le travail, c'est la santé. Et toi, donc, tu as une bonne santé puisque tu continues toujours tu n'as toujours pas raccroché la blouse.
Et tant que je suis encore, que le cerveau suit encore, ça va. Je disais avant la tête et les jambes. Maintenant, je dis plus la tête que les jambes.
Non, surtout qu'on a du mal à trouver la relève. Hein.
De toute façon, je prends la place de personne.
Un élément supplémentaire. Encore merci, Philippe.
Merci beaucoup.